Bon, finalement on est là. Noël arrive, j'ai raté la fête de Noël de la semaine dernière. Bon, c'était un peu triste, un peu pour nous de rater cette belle occasion. Et je pense que vous avez eu l'occasion aussi de méditer, de parler de Noël. C'est toujours quelque chose de spécial de passer ces moments ensemble en tant qu'église. Plus les enfants sont déjà en vacances, donc la famille arrive pour rendre visite, ou il y a certains qui sont partis pour voir les proches. Donc il y a une ambiance particulière. Même si on reste là et on travaille, on sent que cette ambiance de Noël sort des vitrines, elle nous envahit, elle s'invite chez nous. Et puis on est en finale. Mine de rien, si l'équipe de France gagne cet après-midi, bah, ça va être une sacrée fête. Tout le peuple va se soulever dans un sentiment de gloire difficile à décrire ou à expliquer. Pour l'éternité, titrait l'équipe ce matin. Pour l'éternité, les 3 étoiles, parce que quelle que soit l'équipe qui gagne, il y aura 3 étoiles à son palmarès. Et pourra arborer cette troisième étoile sur le sapin de Noël cette année. Mais cette finale, il faut encore la gagner. Je ne suis pas sélectionneur, vous non plus, mais cela ne nous empêche pas d'envoyer des messages, des conseils à Deschamps, à son staff technique et aux joueurs. Ben, ça doit être quand même compliqué d'affronter une finale. Beaucoup de grands sportifs échouent face à la dernière marche de la compétition, la seule qui les sépare de la gloire. Il suffit d'un ballon qui se dévie un peu vers un poteau ou par-dessus la barre horizontale pour que toute la gloire s'envole. On a déjà vécu ça. En méditant sur la nativité, je me suis dit que ce jeune couple de Marie et Joseph ils ont vécu cette naissance un peu comme la finale d'une compétition internationale. Peut-être que cette histoire peut nous donner quelques éléments de réflexion sur comment faire pour décrocher l'étoile. La crèche de Noël représente trois personnages principaux. Joseph, Marie et Jésus. Et elle représente parfois des personnages secondaires, l'ange, l'âne, le bœuf, les rois mages, les bergers. Mais j'ai peut-être été toujours un peu frappé par le fait que les crèches de Noël comportent parfois des représentations qui sont un peu fausses ou qui sont imprécises dans le meilleur des cas. On mettait de la neige sur la crèche, des personnages divers, des jeux, des enfants. Je ne dis pas que les personnages secondaires qui sont représentés dans la crèche de Noël ne soient pas importants. Ils ont leur importance dans l'histoire de ce qui s'est passé. Mais il me semble que si on revient au récit biblique que vous avez sûrement lu ces derniers jours, ce récit accorde une importance à des personnages qui ne sont pas dans les crèches de Noël. En réalité, nous avons peu d'informations sur ce qui s'est passé à ce premier Noël. Le premier chapitre de l'évangile de Luc s'attarde beaucoup sur ce qui s'est passé avant, sur l'annonciation sur l'annonciation de naissance, la naissance de Jean-Baptiste, qui est annoncé à son père Zacharie, et celle de Jésus annoncée à Marie. Et je me demande pourquoi est-il nécessaire pourquoi ces deux annonciations étaient-elles si nécessaires? Je vois que dans les premières réponses que Zacharie et Marie donnent à l'ange, il y a des similitudes. Vous savez, l'ange dit à Zacharie, tu vas avoir un fils. Et il dit à Marie, tu vas avoir un fils. Et dans les deux situations, de manière parallèle, la première réponse que donnent l'un et l'autre sont similaires. Dans Luc 1, 18, Zacharie dit à l'ange, « Comment saurais-je que cela est vrai ? Car je suis vieux et ma femme aussi est âgée. » Et dans Luc 1, 34, Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il possible puisque je suis vierge ?» Les deux répliques commencent par « Comment ?» La première réponse de ces deux personnages, qui sont quand même des grands personnages, des grands héros de la foi chrétienne, ce n'a pas été « Oui, je crois ». La première réponse a été plutôt de dire « Mais comment je fais pour pouvoir y croire ?» Attention, je sais que Marie est un personnage exemplaire dans sa foi. Et même Élisabeth lui dit au verset 25, tu es heureuse, tu as cru que le Seigneur accomplira ce qu'il t'a annoncé. Donc Marie est quand même quelqu'un d'exemplaire dans sa foi. Mais nous avons peut-être tendance à croire que la foi est une question de certitude. Et on entend souvent des personnes dire « je voudrais avoir la foi ». Certains ne se sentent peut-être pas compétents parce qu'ils sentent qu'ils n'ont pas assez la foi. J'ai entendu de la part de personnes qui ont un rôle très important dans notre Église, « je n'ose pas, j'ai une foi qui n'est pas assez grande ». À mon avis, ce que laisse paraître leur réponse, c'est qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait une sorte de certitude inébranlable qui les envahisse pour ressentir la foi. Mais la foi, je pense, ce n'est pas une question de certitude. C'est une question de confiance, certes, mais plutôt de confiance dans un cheminement qui a parfois des zones d'ombre. Un cheminement personnel, mais qui n'a pas à être solitaire. Pour autant, Marie a cru l'ange parce que l'ange lui a dit, dans Luc 1, 36, 37, « Élisabeth, ta parente, attend elle-même un fils, malgré son âge. Elle, qu'on disait stérile, en est maintenant à son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Si Marie croit, donc, c'est parce que le cheminement de Zacharie et d'Élisabeth est un témoignage vivant de ce que Dieu est capable de faire dans nos vies. Il ne faut pas négliger l'importance que le témoignage des frères et sœurs a dans une église, la motivation qu'il peut apporter dans nos cheminements respectifs. Le fait de voir qu'il y a des gens comme nous, avec leurs faiblesses et leurs défauts, qui peuvent voir l'œuvre de Dieu dans leur vie, c'est une source précieuse de réconfort, parce que ce ne sont pas les personnes qui agissent, mais Dieu qui agit à travers elles. Je dirais donc que la première chose qui est importante pour qu'une équipe atteigne le succès, c'est le travail en équipe. Nous avons une belle sélection dans ce premier chapitre de l'Évangile de Luc. Zacharie, Élisabeth, Joseph, Marie ont participé d'une manière incroyable aux événements. Mais le succès d'une épreuve n'est pas seulement dû à la juxtaposition des rôles de chacun des coéquipiers. Une équipe qui gagne est une équipe dans laquelle on joue ensemble, dans laquelle les joueurs partagent une même vision. De toute évidence, dans un match de foot, la vision est celle d'être des champions. Mais soyons honnêtes, ces gens-là qui vont jouer cet après-midi, la plupart du temps, ils ne jouent pas ensemble. Ils jouent dans des équipes différentes, ils jouent à l'étranger pour la plupart d'entre eux. La vision s'arrêtera peut-être ce soir, peut-être dans quelques jours, ils gagnent. Dans le cas du texte biblique, je pense que une partie qui résume bien la vision que ces joueurs ont, elle est dans les prières de Zacharie et de Marie face à l'accomplissement de la promesse de Dieu. En Luc 1, 78 et 79, Zacharie dit, elle est très belle la prière de Zacharie, vers la fin il dit « Notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Il fera briller sur nous une lumière d'en haut, semblable à celle du soleil levant, pour éclairer ceux qui se trouvent dans la nuit et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. » Quelle vision! On en a parlé dans les textes de ce matin, dans les chansons, de cette vision qui nous unit, qui nous rassemble ici. Zacharie retrouve la vue une fois que Jean naît, mais sa vision, sa nouvelle vision, va au-delà de sa propre vie. Il reconnaît dans les événements de cet instant l'accomplissement de la promesse de Dieu depuis Abraham. Et il se projette aussi vers le futur, non seulement sur ceux qui ont des vies resplendissantes, mais aussi ceux qui traversent des périodes sombres. Dans la prière de Zacharie, nous retrouvons le véritable sens de Noël. Le monde vit dans les ténèbres à cause de nos fautes, à cause de notre incapacité de voir le plan de Dieu, à cause de notre impossibilité de nous soumettre à sa volonté. Et voilà que Dieu envoie son Fils, voilà que Dieu vient vers nous. Tel que le soleil qui se lève chaque matin, la lumière se lève dans chacune de nos vies. Et tout à coup, nous pouvons voir que Dieu a tracé un chemin pour nous, le chemin de la paix, vers sa lumière, vers sa chaleur. Dans l'imaginaire chrétien, le périple de Joseph et de Marie vers Bethléem, il est très tranquille, sans embûche. Je parle d'imaginaire parce que nous n'avons aucune information de comment ça s'est passé, ce voyage. Ils ont marché 150 kilomètres, je crois. Donc cela a dû prendre quelques jours, voire une semaine, avec plusieurs étapes. Ils ont dû avoir le temps de parler entre eux, Joseph et Marie. J'imagine bien Joseph qui disait mais bien sûr que c'est par là, tu t'es pas trompé là en regardant ta carte, où ça fait des heures qu'on ne croise personne, on est un peu paumé ici, puis il n'y a aucun panneau. Et Marie qui lui répond, t'as qu'à regarder toi-même ta carte. Enfin, nous ne savons pas, je prends des risques en imaginant les moments de tension qu'il y a pu y avoir dans ce chemin, dans ce couple. Mais en tout cas, Joseph, c'est une question que je me pose, Joseph rentre chez ses parents dans son village, peut-être que c'est l'occasion de présenter Marie à son père, à Jacob, qui s'appelait Jacob, ou à sa mère, peut-être qu'il la connaissait déjà, mais pourquoi ils ne vont pas dormir chez les parents de Joseph? Bon, peut-être qu'ils n'étaient pas vivants, j'en sais rien, peut-être aussi que les parents de Joseph n'étaient pas trop d'accord avec cette union, avec une jeune fille qui en plus elle est enceinte, de grands scandales. Je sais, ce n'est que des élucubrations, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a dû y avoir des difficultés, des moments de désaccord dans ce jeune couple. Mais ce jeune couple a réussi à rester fidèle à la vision. Ils sont allés quand même dans un voyage incroyable à Bethléem, accomplissant ce qui était écrit depuis des siècles. Et puis ils sont allés en Égypte pour fuir la menace d'Hérode jusqu'à sa mort, et puis ils reviennent à Nazareth. Je pense qu'en tant que famille, en tant qu'Église, nous sommes invités à rester attentifs à la vision que Dieu a pour nous. Parce que nous ne pouvons pas établir des plans nous-mêmes. Il y a trop d'incertitudes, trop de choses que nous ne pouvons pas contrôler. En revanche, nous savons que Dieu a un plan pour nous et il nous guide à travers ce chemin. La vision, ce n'est pas notre vision, c'est la sienne. Et la meilleure manière de rester unis d'un même cœur, c'est en partageant l'espérance qui est la nôtre, l'espérance commune de voir s'accomplir le plan que Dieu a pour nous, pour nos familles, pour nos pays. Si nous travaillons en équipe et que nous partageons la vision, nous aurons une belle équipe, une équipe qui gagne des matchs. Et la formule est connue, toutes les équipes font la même chose. Toutes les équipes qui jouent à la Coupe du Monde connaissent cette formule. Il est rare qu'il y ait des dissensions au sein d'une compétition à ce niveau. Mais en tout cas, c'est impossible qu'une équipe dans laquelle les gens se battent les uns contre les autres, que cette équipe soit celle qui gagne. Mais alors, si tout le monde applique la même formule, ces deux choses, qu'est-ce qui fait qu'il y en ait une qui se démarque, qui sorte du lot? Dans une compétition, tout le monde a deux bras, deux jambes, et il y a une préparation physique et technique impeccable. Donc, qu'est-ce qui fait la différence? Je ne suis pas préparateur physique, ni consultant de sportifs de haut niveau, mais ce qui fait la différence, apparemment, c'est la préparation mentale. Donc, il y a des gens qui sont spécialistes dans ça, qui conseillent des sportifs de haut niveau pour qu'ils aient de la confiance en eux-mêmes, pour qu'ils développent la concentration, la motivation, la persévérance. Un mot qui est à la mode aujourd'hui, c'est celui de la résilience. Je ne sais pas. On parle de résilience de la planète face à la crise climatique. On parle de résilience de groupes de personnes ou d'une organisation face à des contraintes, à des problèmes. On parle aussi de résilience pour une personne qui a subi un traumatisme. Et ce qui est intéressant dans ce concept de résilience, c'est que il s'oppose au terme de résistance. Une personne résistante, ce serait quelqu'un qui n'est pas perturbé par les différentes crises ou accidents qu'il peut subir dans la vie. Mais une personne résiliente, c'est quelqu'un qui, même s'il subit des contraintes ou des problèmes, même s'il est atteint par ces problèmes, il sait rebondir après. Comme lorsque vous lancez une salle au sol qui se déforme, mais elle revient à son état initial. La résilience est fondamentale pour réussir à atteindre son objectif, parce que tous les chemins, même s'ils sont tous tracés, ils sont remplis de problèmes et d'imprévus. Jésus aurait pu naître à une époque plus simple. Il est né quand même à une époque de tensions sociales et politiques très fortes. Joseph et Marie ont dû subir les aléas de ces décisions politiques. Un recensement de population avec des déplacements, il y a même un massacre dans le récit. Mais dans toutes ces situations, ils ont réussi à garder le cap. Le plan a été modifié plusieurs fois et ils durent même aller se réfugier en Égypte. Mais dans ce contexte, ils ont su toujours s'adapter au changement de programme à chaque fois. Cette capacité à s'adapter, c'est peut-être ce qui distingue un professionnel d'un champion. Je pense à des grands sportifs comme Tiger Woods qui a dû changer plusieurs fois son style de jeu, son swing totalement. Il a réussi quand même à rebondir, à reprendre confiance en soi, en son geste. Il est revenu à chaque fois plus fort. Je pense à des sportifs qui ont dû récupérer après une blessure très grave et qui ont su revenir au plus haut niveau. Mais je pense surtout aux frères et sœurs qui sont une source d'inspiration et de motivation pour moi. Des personnes qui, surtout, ils ont su ouvrir leur cœur au plus grand changement de tous, celui de mettre leur vie dans les mains du Seigneur. Parce qu'une fois que nos vies sont sous la volonté de notre Créateur, nous pouvons être confiants dans le fait que c'est lui qui fera son œuvre dans nos vies. Et c'est cette confiance qui nous vide, qui nous guide vers la gloire et la gloire du Seigneur. Dans cette période de l'Avent qui est en train d'arriver à sa fin, on a allumé la quatrième bougie, nous avons une belle opportunité de nous rapprocher de nos coéquipiers, nos proches, nos amis, nos frères et sœurs dans la foi. Et c'est l'occasion aussi de remettre à plat nos visions pour nos familles, pour notre Église, qui a fait un travail dans ce sens cette année, pour notre pays, pour notre monde. C'est une opportunité de nous remettre en question et de nous ouvrir au changement. Plus que de bonnes résolutions, je pense que ce dont nous avons besoin, c'est surtout de savoir rester attentif à la volonté de Dieu Tout-Puissant, à la volonté qu'il a pour nous et qu'il veut nous partager dans ces périodes de fête. Restons confiants dans sa présence. Amen.